France Culture. France Culture. Les midis de culture. Chloé Cambrelin.
Bonjour et bienvenue dans les midis où il va être question de corps en mouvement, en représentation, en suspension aujourd'hui. Avec nous dans un instant, Mathieu Barbin, alias Sarah Forever, artiste, danseur, performeur, drag queen, qui a eu carte blanche pour une création la semaine prochaine au Jardin des Tuileries. Puis, après le journal, Bastien Dos, acrobate, danseur, qui défie les lois de la pesanteur et dont le spectacle Moon, cabinet de curiosité lunaire, est repris ce week-end dans le même cadre, à savoir les étés du Louvre avec le festival Paris l'été. Bonjour Mathieu Barbin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct des bureaux de Radio France à Lyon. Et si vous êtes à Lyon, c'est parce qu'avant la carte blanche dont nous allons parler, il y a ce soir cette nuit sauvage imaginée par la percussionniste, compositrice, directrice artistique Lucie Antunes aux Subsistances dans le cadre des Nuits de Fourvière. Elle était avec nous il y a 15 jours et nous a expliqué que le principe de cette nuit, c'était la liberté pour chaque artiste qu'elle a convié et l'écoute pour l'ensemble, surtout pas trop de préparation. Alors, savez-vous ce que vous allez faire ce soir ?
Eh bien non, j'ai complètement respecté les règles. Je n'ai pas préparé grand chose. Non, c'est vrai et faux. Enfin, c'est-à-dire que oui, le concept effectivement est vraiment de laisser libre cours à la rencontre via l'improvisation, mais via aussi surtout, je pense, ce qui nous anime et ce qui a animé Lucie avec cette proposition, c'est via le désir vraiment de rencontre. Et moi, j'avais très envie de lire la totalité, je dis bien la totalité, du témoignage de Britney Spears lors de son procès pour la levée de sa tutelle, parce que je trouve ce texte, je trouve ce témoignage hyper important, je trouve qu'il résonne encore beaucoup aujourd'hui, encore plus peut-être aujourd'hui, et voilà, et je trouve que dans un espace de liberté, il va résonner tout particulièrement ce soir.
Et on sait que voilà, ça peut résonner fort, effectivement. Elles nous ont expliqué, hein, Lucie Antunes, Anna Mouglalis, que c'était lors d'une nuit comme celle-ci. Il y a quelques temps, à la Cité de la Musique, que, en tout cas, Lucie Antunes avait découvert le texte « Les guerrières » de Monique Vitti, qui a donné tout ce dont on a parlé ensuite. Alors justement, ce soir, il y aura le collectif Draga. Il y aura aussi Clara Isé, Mélissa Lavaux, Rebecca Chaillon, Francky Gogo et d'autres encore. Vous avez dit improvisation, justement ce que disait Lucie Antunes aussi, c'était inviter à l'improvisation des artistes qui n'ont pas nécessairement l'habitude d'improviser. Vous, je vous ai entendu dire dans un podcast que vous avez créé qui s'appelle Résiste, que vous écriviez absolument tout dans vos spectacles ou vos numéros.
Oui, c'est pas bon, enfin c'est un exercice, l'improvisation que dans lequel j'aime me laisser aller de temps en temps, mais enfin en tout cas pas en représentation, très très peu, contrairement à ce qu'on peut croire via la friabilité ou via des fois le comme ça les outils un peu en suspension. On pourrait penser que voilà, c'est un peu tout et n'importe quoi, mais en fait le tout et n'importe quoi, moi je trouve qu'il demande justement à être conduit, à être pensé, à être dirigé, et c'est de là qu'advient la véritable soi-disant liberté, la quête de la liberté. Voilà, pour moi elle s'inscrit dans un processus d'écriture, et donc très souvent, que ça soit dans mes spectacles, dans des cabarets, dans des cartes blanches comme ce dont on va parler là dans quelques minutes dans le cadre de Paris l'été, en fait c'est quand même très conduit et assez écrit, en tout cas les intentions elles sont assez écrites.
Alors le podcast que je cite là en l'occurrence, c'était dans une discussion que vous aviez enregistrée avec Lola Lafont. Vous y parliez notamment de danse et vous disiez donc que par exemple dans les scènes de lip sync, c'est-à-dire de playback sans chanter mais juste en bougeant les lèvres, que l'on retrouve beaucoup dans le drag, le texte pour vous est associé vraiment aux gestes que vous faites.
Oui, enfin moi à chaque fois le texte, c'est le cas dans le drag effectivement, dans l'exercice du lip sync, mais plus généralement sur scène avec d'autres matériaux, même en chant, quand je chante, c'est le texte est vraiment ce qui sort, ce qui est posé sur le visage. Pour moi, c'est associé à l'écriture du corps en mouvement. Et d'ailleurs, il est pour moi beaucoup plus facile d'apprendre un texte en mouvement que de l'apprendre posé à une table. Voilà, c'est assez impossible. Moi, très souvent, je suis dans une pièce, même si c'est juste pour en marchant ou en dansant un peu. Enfin, le texte moi je l'apprends vraiment comme ça, en inscrivant le corps dans un espace.
Avec le corps, alors il faut dire que vous venez de la danse contemporaine, enfin c'est un peu plus complexe que ça, mais disons que vous avez appris enfant le chant et la danse, vous avez travaillé avec Jean-Claude Galota, Boris Charmatz, Marlène Saldana entre autres, avant donc de créer vos propres pièces. Vous vous êtes fait connaître largement avec ce nom de Sarah Forever en participant à l'émission Drag Race dont vous avez été finaliste en 2023. Avant cela, vous aviez déjà créé deux pièces solo, Totemic Studies et Les 100 000 derniers quarts d'heure. À l'automne dernier, vous avez créé Dynasty, spectacle dont nous reparlerons, qui va de nouveau tourner au printemps prochain. Et donc, la semaine prochaine, il y a cette carte blanche dans les Jardins des Tuileries, domaine du Louvre, dans le cadre du festival Paris l'été, mercredi, jeudi, vendredi. Vous-même avez invité d'autres artistes pour cette carte blanche. Alors, qu'avez-vous préparé, puisque vous avez préparé?
Alors oui, alors bon, par contre, c'est vraiment pas une création. Hein. C'est vraiment, comme son nom l'indique, c'est dans le cadre d'une carte blanche. Et nous, alors, c'est vraiment une garden party, parce que alors, le titre, c'est quand même Slutty Phones, une garden party. Et les gens pensent que ce n'est pas une garden party, mais c'est totalement une garden party. Donc vraiment, ça, c'est le point de départ, c'est quatre phones.
Voilà, parce que Slutty Phones, comment on peut traduire ça? Moi, on m'a proposé faune dévergondée, ça vous va ou...
Ah ben, ça dépend des limites que vous me donnez, mais on peut totalement partir sur faune dévergondée, qui est vraiment... C'est vraiment, je pense, la quintessence de la traduction. Voilà, je pense, vraiment, faune dévergondée, c'est exactement ça. Partons là-dessus. Ou des faunes sassa aussi. Sassa, c'est quand même très, voilà, avec toute la poésie que ça développe. Non, mais voilà. Donc, c'est quatre faunes qui brûlent le palais des Tuileries et qui, pour fêter ça, organisent une garden party. En fait, le postulat de départ, c'est vraiment de partir de ce lieu qui a été au centre des révolutions à Paris, puisque c'est le cas. Hein, c'est une sorte de mini-Élysée, plutôt de grand Élysée ou de mini-Versailles, hein, le palais des Tuileries à l'origine. Et puis il a finalement, après maintes et maintes révolutions au cœur de Paris, il a finalement été brûlé par les communards. Et les communards, en fait, pendant ces trois soirs-là, ça va être nous. On va questionner les espaces de liberté, les espaces qu'on détruit, les espaces qu'on a besoin de reconstruire. Les Tuileries, c'est aussi, ça a été aussi au centre d'une polémique l'été dernier quand, pour les besoins des Jeux Olympiques, les buissons qui permettaient le cruising ont été arrachés. Et donc on questionne voilà tous ces espaces qui sont en construction, en déconstruction et qu'on vient comme ça habiter, qui sont aussi des espaces de séduction, de désir et dans lequel pas la première fois, j'en sais rien, mais en tout cas de rares fois, il va y avoir quatre performeurs racisés, queer, des kings, des queens, des performeurs venus de d'autres horizons qui vont s'emparer de cet espace.
Oui, alors je disais création, pas au sens de nouveaux spectacles, mais sens où ça n'a pas encore existé. Voilà, c'est quand même vraiment lié à ce moment-là et à ce lieu-là, vous venez de nous l'expliquer. Alors, il y aura avec vous Dalila Khatir, Diva Beyrouth et Power Bottom. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces artistes que vous avez conviés?
C'est des artistes que j'ai rencontrés sur une dizaine d'années. Dalila, on a beaucoup travaillé ensemble chez Boris Charmatz notamment, parce qu'elle faisait travailler la voix. C'est une chanteuse qui a beaucoup travaillé donc avec de nombreux chorégraphes et metteurs en scène. Power Bottom, je l'ai rencontré plutôt dans le cadre du cabaret, Diva, du drag show. Donc en fait, c'est assez drôle. Enfin, on se l'est dit au fur et à mesure quand on a un petit peu répété. On s'est dit que c'était aussi ça, ce spectacle. Vraiment que j'étais un peu pivot entre guillemets, ou en tout cas que le show accueillait comme ça toutes ces rencontres, et c'est des artistes qui en plus n'ont pas nécessairement travaillé ensemble avant. Et il est beaucoup question de ça, je pense, dans cette proposition.
Et donc là aussi, finalement, on retrouve ce que vous disiez précédemment au sujet de la nuit sauvage, quand même l'importance un peu de la rencontre, d'être ensemble sur scène, quand bien même cette scène est un jardin. C'est vrai que vous, depuis quelque temps, vous faites beaucoup des solos, mais être avec d'autres artistes et créer ensemble, c'est important pour vous aussi.
Oui, c'est vrai que les solis, ça a toujours été les moyens le plus immédiat aussi, parce que le plus facile, et puis aussi parce que très souvent on dit aux artistes, ah c'est drôle, vous avez fait beaucoup de solis. Oui, c'est très souvent aussi lié à des questions budgétaires.
Voilà, ça coûte moins cher d'être tout seul sur scène.
Exactement. mais c'est aussi vraiment un exercice que moi j'ai beaucoup aimé embrasser, pratiquer. Enfin voilà, il n'y avait pas de problème. Mais je trouve aussi que voilà, on est dans des temps, particulièrement là en ce moment, où effectivement la rencontre avec d'autres artistes, elle est nécessaire, elle est vitale. Et donc oui, j'en suis aussi à un moment, moi, après toutes ces expériences là, où j'ai plutôt envie de partager, de rencontrer, de discuter, de confronter, et c'est ça qui me nourrit en ce moment.
Meine Damen und Herren. guten Herren, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, I give you that international sensation, Fräulein Sally Bowles.
You have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr. You'll never turn the vinegar to jam, mein Herr. So I do what I do. When I'm through, then I'm through, and I'm through. Toodaloo. Bye, bye, my liebe Herr. Farewell, my liebe Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mein Herr. Don't dab your eye, mein Herr, or wonder why, mein Herr. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You've every cause to doubt me, mein Herr. The continent of Europe is so wide, mein Herr. Not only up and down, but side to side, mein Herr. I couldn't ever cross it if I'd tried, mein Herr. But I do what I can, inch by inch, step by step, mile by mile, man by man.
Liza Minnelli, Mein Herr. Elle est Liza Minnelli avec sa mère d'ailleurs dans votre spectacle Dynastie, Mathieu Barbin. Là, musicalement, ce sera quoi l'univers ou les univers musicaux aux Tuileries la semaine prochaine?
Oh, c'est un joli pot-pourri. Il y a le temps des fleurs. Il y a aussi des créations originales. On reprend un Brassens avec Power Button. Je me suis fait tout petit. Mmh. Mais il y a aussi du AC/DC. Il y a même la voix de Stéphane Bern. Eh ben oui. Mais ça me paraît. Enfin voilà, quand même au cœur des Tuileries.
Petit rapport avec l'histoire du lieu, peut-être.
Ah
voilà.
Bah totalement oui. Puis Stéphane Bern, c'est quand même des vieilles pierres. Et du mauvais goût aussi avec l'Eurovision très souvent. Enfin voilà, ça s'imposait un petit peu. Mmh. Et puis non, il y a beaucoup de. On reprend beaucoup de choses. On reprend Sans Contre façon, on reprend, il y a du Queen aussi, on reprend, voilà, c'est beaucoup de titres comme ça au cœur de, je pense, des mémoires de beaucoup de personnes.
Le mauvais goût qui, disons-le, pour éviter les malentendus dans votre bouche, n'est pas une insulte,
ah
Mathieu Barbin. Voilà.
Oh là là, non. Alors, non, c'est plutôt une grande qualité.
Exactement. Alors, je citais Dynastie, parlons-en un peu de ce spectacle, parce que c'est aussi une manière de parler de vous. Vous le présentez en disant, c'est une chambre d'enfant dans laquelle je joue, j'y rêve de filiation en empruntant des vêtements, en chantant, en dansant, en prenant pour une star de cinéma ou un fils d'eux. Et en effet, le sujet, ce sont les liens de filiation, ce qu'on choisit, ce qu'on subit, ce que l'on rompt, ce que l'on renoue. C'est votre lien à votre mère. Je disais tout à l'heure, vous venez de la danse, mais ce que vous racontez dans ce spectacle, c'est aussi que vous venez de la télévision.
Oui, c'est, enfin, moi, c'est effectivement l'outil qui a été au centre de tout dans ma vie, qui l'est encore aujourd'hui. Mais ça a été l'outil qui m'a permis de rêver, de m'évader, de me dire que, en fait, je pourrais moi aussi briller et m'élever en rentrant dans cette petite boîte carrée noire. Ça a été vraiment le premier contact que j'ai eu avec la culture. On allait, comme je le dis dans le spectacle, on n'allait pas au musée, on n'allait pas au cinéma, on n'allait pas au théâtre. C'était même pas concevable. C'est même pas des choses qu'on pouvait penser. Ça n'existait pas. Mais en revanche, on avait cet objet au centre du salon et où ma mère et moi on se réunissait. C'était notre point de rencontre très 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 souvent. Quasi tous les soirs, et c'est ce qui m'a donné envie de danser la télé.
Et oui, parce que vous n'alliez pas au théâtre, au musée ou au concert, mais vous avez quand même commencé la danse et le chant jeune. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même une envie de faire, une envie d'être sur scène.
Ouais, il y avait une envie de fuir aussi, je crois. Ça, c'est que j'ai consenti bien plus tard. Mais puis je pense qu'il y a eu de la part de ma mère aussi une envie de moi, de continuer à faire ce qu'elle avait entrepris, c'est-à-dire s'exclure, enfin voilà, de son milieu social, essayer de tendre vers autre chose. Je pense qu'elle a identifié que, à travers la danse ou le chant. Alors au début, ça a été vraiment pêle-mêle. Voilà, tout était prétexte. Hein, vraiment chant, danse. Elle se saignait pour me payer des cours un peu de tout, de théâtre, etc. Et puis au final, la danse est un peu imposée comme étant le voilà ce qui me passionnait, ce qui me transportait le plus et ce qui allait pouvoir me permettre de partir, je crois.
Alors, c'est peut-être un peu étrange ce qu'on va faire là, mais je ne sais pas si vous vous en souvenez, car il s'est passé beaucoup de choses pour vous depuis, mais en 2018, vous étiez venu sur France Culture dans une émission courte qui s'appelait « Les carnets de la création » par Aude Lavigne. Ouais. C'était juste avant la création de votre premier solo, votre pièce « Totemic Studies ».
Il faut du courage quand même hein, pour se lancer, créer, être chorégraphe.
Oui, il faut de la pugnacité, je crois. On parlait d'une déclaration comme un premier solo. C'est vraiment comme ça que j'ai pris l'exercice, comme une sorte de manifeste, une espèce d'introduction, de prélude de comment appréhender ce médium, ce métier, et avec quelle âpreté l'appréhender, le parcourir.
Même si quand on est interprète, on donne beaucoup de soi. Quand on travaille avec les chorégraphes, on improvise, on donne de la matière, comme on dit. Mmh. Là, vous allez tout faire, vous allez vous montrer. Alors en plus, la thématique de cette pièce, titrée donc « Totemic Studies », c'est un petit peu une traversée dans tous les sens de la vie, de la représentation de soi-même. C'est terriblement ambitieux. Alors, par où, comment on commence?
C'est terriblement, ambitieux, angoissant. En fait, ce qui était surtout angoissant et là où il y avait une forte part d'inconnu dans tout ça, c'est que, évidemment, j'ai aucun rapport au totémisme. Je suis blanc, occidental. Et très vite, justement, ce que j'ai voulu faire, c'est ne pas parler de la représentation ou des tentatives de représentation des autres, mais bien de moi-même, dans un contexte, un environnement qui s'y prête, puisqu'il s'agit effectivement d'un solo. Et quoi de plus violent et de plus exacerbé que cette question de la représentation à l'intérieur de ce processus?
Donc vous allez vous montrer.
C'est ça, me donner en spectacle au sens propre, puisqu'il s'agit de ça.
Puisqu'il s'agit de ça, Mathieu Barbin, il s'agit toujours de ça finalement.
Waouh. Ouais, et ben oui, effectivement, il s'agit toujours de ça. Moi, se donner en spectacle. On raconte beaucoup de choses de pourquoi on fait tout ça. Bon, moi vraiment, je pense que je veux juste être aimé, quoi, et regardé, et être vu et entendu, et que la scène c'est à chaque fois une occasion d'arracher le micro. Et je pense que c'était le cas en 2018, et c'est toujours le cas aujourd'hui après plein d'expériences. Mmh. Je pense qu'il s'agit toujours et avant tout de ça, de se donner en spectacle. Ouais.
Et c'est intéressant aussi ce qui est dit là finalement sur qu'est-ce qui manque quand on est interprète, peut-être justement cette idée de manifeste, d'affirmer quelque chose comme on le fait dans un solo que l'on crée pour soi, avec soi.
Oui, alors ça j'en suis un peu revenu, je le pense toujours, c'est effectivement une vraie, je parlais d'arracher le micro, de s'en emparer, je pense qu'effectivement l'exercice du solo, il y a vraiment de ça, surtout quand on est d'abord interprète, on a vraiment envie effectivement d'affirmer quelque chose. Après, je crois aussi que c'est très français de raisonner comme ça, je trouve que l'interprète est pas beaucoup mis en avant et en valeur en France, ce qui est beaucoup moins le cas par exemple aux États-Unis ou dans d'autres cultures, où le performer, parce que c'est un anglicisme, est vraiment porté et vraiment voilà, beaucoup mis en avant. Je trouve qu'en France, si tu n'es qu'interprète, ça veut dire que tu n'as pas encore affirmé quelque chose. Alors que c'est assez faux. Je pense qu'il y a vraiment des interprètes qui brillent, qui sont brillants, qui sont inspirants, qui sont d'une force incroyable sur scène, mais qu'on valorise moins en France. Je pense que c'est juste culturel.
Oui, parce que sans doute ça va avec cette idée, ce statut qu'on a en France de l'auteur.
Exactement.
Et peut-être justement que le fait de faire de créer aussi à plusieurs, de proposer un manifeste à plusieurs, comme vous allez le faire la semaine prochaine, comme vous le faites aussi ce soir, c'est une manière d'aller un peu contre ça précisément, non?
Ah oui, exactement, c'est ça, c'est un peu Donc, du coup, c'est un peu contre-intuitif, mais oui, je pense que c'est, oui, oui, il y a vraiment une nécessité de contrer aussi la surpuissance, comme ça, de l'auteur, voilà, de l'artiste.
Génial.
Ouais, exactement, du génie, avec toutes les dérives que ça a créées, qu'on connaît, d'ailleurs, par ailleurs, donc on en revient un peu, et ça passe, effectivement, le pluriel permet quand même de contrer beaucoup ça. Et donc, là, en ce moment, oui, j'ai beaucoup envie de ça, ouais.
Alors après ce Totemic Studies, donc 2018, est arrivée la pièce Les 100 000 derniers quarts d'heure, ça c'était 2020. La question était le rapport du corps au travail, avec cette idée, c'était dans votre note d'intention du corps-discours, qui est quand même très importante, et là c'est pareil en fait, le corps-discours, ça n'était pas que sur ce spectacle-là, c'est...
Non, oui, ça a toujours, oui, le corps discours ou le, avec des textes fleuves comme ça portés par un corps et une voix. Ça a toujours été, ouais, un peu au centre du travail. Bon, là, dans les 100 000 derniers quarts d'heure, il était vraiment question. On a beaucoup, bah, d'ailleurs, c'est un travail qu'on a poursuivi, enfin, que j'ai poursuivi ensuite avec Dynasty, parce qu'il était beaucoup question de la voix de ma mère. Donc, c'était effectivement le rapport du corps au travail, mais c'était la vision de ma mère, qui s'est toujours définie, et encore aujourd'hui d'ailleurs, à bientôt 76 ans, par le travail. Ça a vraiment été à chaque fois, sa seule manière en société, socialement, de se définir. Et du coup, c'était ça que je voulais porter dans ce spectacle. Comment toute sa vie, on travaille, on reste 40, 45 ans, 50 ans dans une boîte, ce qui aujourd'hui est de moins en moins le cas d'ailleurs, et comment on se définit vraiment uniquement à travers cette fameuse, ce prisme comme ça, de très français aussi, de la réussite sociale, de la carrière voilà bien menée. Et donc, dans les 100 000 derniers quarts d'heure, il est vraiment question, c'est vraiment que ma mère qui parle de son rapport au travail, de l'endroit au travers duquel ça lui a permis, le travail lui a permis de s'échapper, de s'exclure socialement. Qu'est-ce qu'elle a, l'heure du bilan aussi, qu'est-ce qu'elle estime avoir, là où elle estime avoir réussi, là où elle estime avoir échoué, qu'est-ce qu'elle, ce vers quoi elle aurait voulu tendre. Et donc vraiment le spectacle il reprenait tout ça. Et puis au milieu de ça, il y avait comme ça des incursions de Dolly Parton, de Dalida, des figures vraiment de la culture populaire qui questionnaient aussi le rapport à la réussite. Et j'ai poursuivi ce travail en fait avec Dynasty.
Et cette question du travail et de comment il nous définit de cette manière, voilà, de que ce soit toujours la deuxième question après comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Il y a un écho à ça aussi très directement lié à votre mère dans Dynasty, avec cette question de quand on est à l'école et qu'on doit remplir la profession des parents, par exemple.
Oui, toujours ce moment qui moi était un moment de honte et puis évidemment avec le recul j'ai honte d'avoir eu honte et d'avoir eu honte beaucoup à chaque début d'année quand effectivement l'institutrice ou l'instituteur nous demandait de noter le nom prénom des parents et puis juste en dessous effectivement la profession et où moi ma mère se saignait pour me mettre dans des écoles de Bourges et du coup à côté de moi j'avais toujours des fils de dentistes, de chirurgiens, de notaires et moi péniblement je m'étais père absent et mère secrétaire. Bon et puis c'est que après qu'on se dit qu'en fait cette façon de jamais être à sa place en fait, c'est une façon d'être partout à sa place. Mais ça met beaucoup de temps à, on met beaucoup de temps à le comprendre et puis on essuie beaucoup de plâtre, je crois.
Les 100 000 derniers quarts d'heure, c'est aussi là que vous avez commencé à faire du drag sans vous en apercevoir. C'est ce que vous avez déjà pu raconter, hein, que ce sont des amis en fait qui vous ont dit, mais là en réalité, ce que tu fais, ça correspond à quelque chose qui existe et qui s'appelle le drag. Vous êtes allé finalement plus clairement dans cette direction-là, donc avec Sarah Forever. Étant bien entendu que comme n'importe quel autre art de la scène, chacun, chacune a son univers propre, ses propositions, sa part de créativité au-delà des codes du genre, on va dire. Vous dites que le drag est sans doute l'art le plus démocratique, le plus égalitaire. Pourquoi ?
Oui, parce que c'est le drag, c'est un art qui se passe d'école, j'espère encore pour longtemps. Bon, il y en a bien qui vont essayer de faire entrer ça dans un certain académisme, mais je pense qu'il faut lutter contre ça. Voilà, il se passe d'école, il est extrêmement solidaire aussi puisqu'il se fait on apprend à travers les expériences des autres et puis à travers sa propre expérience. Donc c'est vraiment, ça se passe d'académisme, d'institution, et c'est vraiment à la portée quand même en fait. En réalité, de tout le monde. Alors, pas forcément avec succès au début. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que c'est, enfin, de réussir en drague, bon. Mais ça se fait sur un coin de table, dans une chambre, sur scène. Moi, c'est ce que je préfère faire. Mais ça se fait dans plein d'endroits. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de. Juste, il faut expérimenter. C'est en ce sens que je trouve que c'est effectivement très démocratique comme art.
démocratique, mais pour autant, voilà, faut pas non plus qu'on croie que c'est facile. Enfin, je dirais quand même de la performance. Faut être sur scène. Il y a tout le travail de danse, de rythme, de comédie, le maquillage poussé à ce niveau-là, c'est un art aussi. Les vêtements également. Voilà, c'est tout ça. C'est un savoir-faire quand même. Enfin, c'est très exigeant.
Oui, oui, c'est très exigeant, mais c'est pas bourgeois au sens, voilà, de l'académisme que les autres arts convoquent et dont ils s'entourent. Là, c'est très exigeant, mais c'est de nous à nous. Et voilà, il y a pas d'école pour tout ça.
Alors en ce moment, depuis la semaine dernière, il y a chaque jeudi soir sur France 2 et sur France.tv un Drag Race All Star qui réunit 10 drags des 3 dernières saisons, enfin des 3 premières saisons de Drag Race. Thomas Joly était l'invité exceptionnel du premier épisode. Marion Cotillard était au jury pour l'épisode d'hier soir, puisque bon, c'est un concours. Vous avez donc été finaliste en 2023. À l'automne 2024, vous avez créé Dynasty, dont on a parlé. Donc, ça reprend printemps prochain au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon en mars, puis au Théâtre de Vidi à Lausanne, de nouveau à Toulouse où ça avait été créé, puis à Bordeaux. C'est un spectacle qui a déjà évolué. Je crois, va-t-il continuer à évoluer et de quelle manière évolue-t-il ?
Non, là, j'espère, surtout pour les équipes, que non, il ne va pas évoluer. Je trouve qu'on est arrivé il est bien. J'en sais rien, en tout cas. Il m'est, comment dire, là, dans sa forme, il me paraît être à l'endroit où il faut.
Il correspond à ce que vous voulez que ce soit.
Ouais. En fait, je crois vraiment que c'est la première fois, effectivement, des trois solides, là, dont on a parlé précédemment, c'est donc le troisième. C'est la première fois où j'arrive à identifier aussi des outils que je manie, que j'ai vraiment plaisir à manier, à utiliser. Je trouve que je m'adresse de la manière dont, enfin, je sais pas, dont il faut s'adresser. Je trouve que les gens, il y a aussi un échange avec les gens qui est à l'endroit dont j'ai toujours rêvé qu'il soit. Enfin, voilà, en fait, il y a plusieurs choses qui font que là où il est aujourd'hui, je m'y sens bien. Je trouve que j'ai envie de le transmettre comme ça aux gens. Et du coup, il y a une trentaine de dates, effectivement, sur l'année qui arrive. Et je souhaite qu'il soit présenté la trentaine de fois comme ça. Je trouve qu'on est bien là dans ce qu'on fait avec toute cette équipe. Parce que je suis évidemment seul au plateau, mais c'est toute une équipe incroyable. Voilà, je pense à Florent Gouilou, à François Boulet, à Géraldine, à tous les gens qui m'ont accompagné, à Dalila aussi, tous les gens qui ont accompagné ce processus pour Dynasty. Laurie Anderson au Superman, titre qui est dans votre spectacle Dynasty, Mathieu Barbin, et qui a été une grande inspiration pour l'album Aux Guerrières de Draga, avec qui vous serez en compagnie d'autres artistes à l'invitation de Lucie Antunes ce soir à Lyon, aux Subsistances, dans le cadre des Nuits de Fourvière. Votre carte blanche dans le Jardin des Tuileries à Paris, c'est la semaine prochaine, 23, 24, 25 juillet à 19h, dans le cadre du Festival Paris l'été avec les étés du Louvre. Et pour ce qui est de Dynasty, on l'a dit, la tournée reprend donc en mars au Théâtre de la Croix-Rousse. Toutes les dates sont sur votre site. Madame Forever, merci beaucoup Mathieu Barbin. Merci à vous.
Et merci aux équipes du bureau de Radio France à Lyon qui vous ont accueilli, en particulier à Chantal Nouvello. Dans un quart d'heure, nous serons avec l'acrobate, danseur, performeur Bastien Dos. Ce sera juste après le journal qui arrive.
France Culture. Les midis de culture. Chloé Cambrelin.
Après Mathieu Barbin, alias Sarah Forever, un autre artiste à retrouver ces prochains jours au Jardin des Tuileries dans le cadre du festival Paris l'été avec les étés du Louvre est avec nous jusqu'à 13h. Bastien Dauss, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur France Culture. Vous reprenez ce week-end, demain et dimanche, votre spectacle Moon, cabinet de curiosité lunaire avec votre compagnie Barks. Spectacle, oui, mais en déambulation. Il s'agit de vous suivre puisque Moon est pensé comme une visite d'exposition vivante et acrobatique. Vous venez du cirque, Bastien Dauss, et ce qui vous intéresse, c'est de jouer avec la gravité, l'équilibre, le déséquilibre, la suspension. Comment vous est venu ce goût-là ?
Ce goût-là, il vient d'assez loin, en fait. Il vient de l'enfance. Petit, déjà, j'avais ce besoin de bouger, sauter, tenir en équilibre, ce qui faisait très peur à mes parents d'ailleurs, mais c'était un besoin depuis toujours. Et dans le cirque, j'ai trouvé l'endroit où je pouvais réunir toutes ces passions. Donc mon spectacle, c'est ça en fait, c'est comme une réunion de toutes mes passions. Donc l'acrobatie, la cascade, la danse, les arts plastiques, la sculpture, les effets spéciaux presque d'une certaine manière. Oui. Et c'est ce qui me plaît en fait dans ce l'hybridation en fait des formes, c'est de pouvoir mélanger tout ce que j'aime.
Moon, lunaire, bon voilà, il y a quand même quelque chose de l'imaginaire, de l'espace aussi dans ce souvenir d'enfance peut-être dont vous parlez ou.
Oui, l'étoile, le céleste, évidemment, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, regarder le ciel pendant des heures, me perdre dans mon imagination. J'ai jamais eu de problème à être seul. À regarder le ciel tout seul, c'était un truc que j'adorais en fait. La solitude, c'était très bien pour moi. Et donc il y a de ça dans Moon, mais c'est surtout le rapport physique qui m'intéresse en fait dans Moon. C'est au-delà du côté astral, c'est le rapport à la notion de gravité au sens sur la Lune, un sixième de notre poids par exemple. Et c'est ça que j'ai voulu toucher avec ce spectacle.
Alors c'est très impressionnant, c'est très beau. Pour essayer de décrire un peu vous et les autres interprètes, vous jouez, vous dansez, vous entrez en mouvement, en suspension, avec des machines qui ressemblent à des sculptures et qui vous permettent, par du contrepoids, etc., de trouver ce point de suspension et de jouer autour, c'est ça ?
C'est exactement ça. En fait, je crée des sculptures. Donc ça, c'est plusieurs mois de travail en général, voire années pour certaines. Et ensuite, j'invite plusieurs acrobates, danseurs, danseuses à travailler, à découvrir tout un nouveau vocabulaire en fait sur ces structures. On ne peut pas arriver avec une matière déjà connue. On ne peut pas arriver avec notre capacité de danse classique, donc les mouvements. On doit tout réinventer à chaque fois. Donc chaque structure est nouvelle et offre un champ lexical nouveau.
Donc c'est vraiment dans ce sens-là que ça se passe. C'est pas vous imaginez les structures qui vont vous permettre de faire ce que vous avez en tête. Il y a la structure et qu'est-ce qu'on peut faire avec elle, c'est ça ?
C'est un peu un mélange de tout ça. Ça dépend desquelles en fait. Certaines sculptures sont venues comme des images, un peu classiques. J'imagine ça, je la dessine, on la construit. Et d'autres, c'était une idée de mouvement. Donc il y en a une par exemple, c'est un objet qui me permet de marcher sur les murs. L'idée de base, c'était j'ai envie de.
À quoi ça ressemble, ça, par exemple, pour qu'on.
Alors, oula.
À quoi elle ressemble cette machine-là cette...
C'est comme un balancier en acier, avec un mât sur lequel on vient se fixer. Donc, les pieds vont marcher contre le mur en arc de cercle. C'est un hommage, en fait, à la chorégraphe Trisha Brown, qui avait fait une chorégraphie Walking on the Wall. Je me suis dit, comment faire un hommage en recréant une structure à ma manière? Donc, au lieu d'être suspendu par des cordes, donc suspendu au plafond, la structure est autonome et posée au sol. Et donc là, c'est venu d'un mouvement, une envie de marcher contre les murs. Et autour de ça, j'ai passé plusieurs mois à dessiner cette structure qui me permettait ce.
Voilà, parce que c'est vous qui les concevez. Hein,
c'est ça, ouais. Alors, moi, je fais les premiers dessins, les premières études, on va dire, un peu basiques. Et ensuite, je travaille avec plein de corps de métiers différents pour réaliser mes petits rêves. Donc, c'est un peu ça. Donc, je travaille avec des bureaux d'études, avec des artisans aussi, des costumiers, costumières. En fait, j'essaie de faire appel à plein de choses différentes. Donc, on crée des variations de pesanteur, mais avec des contrepoids, des élastiques, des costumes, la musique aussi.
Les costumes, ils jouent pas dans l'équilibre, si ou si.
Le costume, on va essayer de réfléchir comment il va flotter, par exemple, voilà, ouais. Comment il va accompagner le mouvement. Mais ça a son intérêt, en fait, quand même, d'avoir quelque chose de cohérent, de naturel aussi par rapport à notre performance. On essaie d'avoir une forme de simplicité dans ce que je présente. Donc j'aime bien que les costumes soient simples aussi, en fait, que ce soit comme une espèce d'évidence de quelqu'un qui marche sur le mur. Comme si c'était normal.
Alors, il y a plusieurs formes. Il y a aussi donc cette espèce de grand bras métallique qui peut tourner, monter, descendre, et au bout duquel vous êtes attaché, accroché avec un baudrier. Il y a aussi, par exemple, une table et deux chaises, mais qui sont de biais, qui normalement ne pourraient pas tenir comme ça, mais qui la tiennent. Et donc, vous allez de structure en structure. En fait, ce sont des suites de petites formes. Vous avez joué cela déjà dans plein de lieux différents, pas forcément des lieux dédiés aux arts de la scène. Est-ce que ça veut dire quand même que c'est à chaque fois différent ?
Ouais, exactement. C'est ce que je voulais créer avec ce spectacle. C'est un spectacle pour des lieux non dédiés, donc des lieux, un espace urbain, rural, quotidien, atypique, de patrimoine. Donc à chaque fois, c'est un peu différent et je crée un programme différent en fonction du lieu. Donc quand j'ai eu la chance d'être invité par Marie Lenoir et Thomas Quillardet pour présenter mon spectacle à Paris l'été, et quand ils m'ont parlé de cette terrasse aux Tuileries, là j'ai imaginé cette ligne, donc je présente mes structures en ligne, en fait, comme un musée un peu d'histoire naturelle où on avancerait tout le long. Ça avait du sens. Parfois on va faire une balade plutôt, on va mettre des objets à différents endroits d'un parc ou d'un espace public.
Oui, parce que vraiment, en fait, le but, c'est pas de les effacer, ces structures, c'est pas de faire croire que vous êtes suspendu en l'air. Justement, elles font partie de l'histoire.
Exactement. Parfois, on me demande, est-ce que je veux pas les mettre en noir ou les camoufler un petit peu, et surtout pas, moi, je tiens à les montrer, je les assume. J'aime beaucoup quand le public arrive, voit les sculptures, se demande à quoi ça sert, et ensuite nous découvre, nous, en train de danser dessus, et où là, on comprend enfin, on fait le lien, on se dit « Ah, ça servait donc à ça !»
La compositrice Sakine qui travaille avec vous. Alors, ce sont beaucoup des nappes comme ça. On imagine que selon le contexte, selon l'endroit où vous jouez, le rendu du son, la manière dont il parvient jusqu'à vous peut changer aussi. Mais comment entre-t-elle en résonance avec ce que vous faites, la musique ?
Alors, donc avec Sakine, c'est quelqu'un avec qui je travaille sur tous mes spectacles. Donc, c'est assez précieux parce que c'est une compositrice que j'adore, compositrice incroyable, et je crois qu'elle a parfaitement compris mon travail. Et moi, je crois que j'ai très bien compris sa musique. Et donc, cette association, elle permet qu'il y ait un équilibre toujours entre la musique et les performances, qui rien qui passe au-dessus de l'autre. En fait, c'est ça qui est compliqué. Comment ne pas avoir une musique trop grande par rapport à ce qu'on va présenter, ou inversement, j'ai envie qu'elle soit mise en valeur, sa musique. Donc, c'est une chance de pouvoir travailler avec elle sur chaque spectacle.
Vous jouez avec l'espace, vous jouez avec le temps aussi, parce qu'on n'est pas dans l'acrobatie ultra-démonstrative de vitesse, etc. Bon, ça peut parfois aller vite, mais ça peut aussi aller très doucement.
Oui, j'essaie je coupe au fur et à mesure, j'enlève tout ce qui est en trop, trop, trop fort, trop, trop grand. Je préfère me concentrer sur des gestes un peu plus petits, un peu plus simples, et peut-être plus éloquents parfois.
et lent, du coup. Et c'est d'autant plus impressionnant, et on se dit que ça doit être d'autant plus difficile, d'ailleurs.
Exactement. Ouais. Ah ben, retenir, c'est très dur. Il faut avoir un contrôle de son corps en permanence. Et quand on est lent, dès qu'on vient proposer de la vitesse, elle prend, elle, une ampleur tout de suite.
Et oui. Est-ce que c'est en fait un déséquilibre ou est-ce que c'est un autre équilibre que vous parvenez à trouver? Bon, voilà.
Voilà, très bonne réponse. Non, je crois que ça dépend de ce que je présente. Moi, j'aime bien me dire que je joue du déséquilibre, donc je me laisse tomber et en fait, on ne tombe jamais. C'est ça qui m'amuse, de me dire qu'on est en permanent déséquilibre, mais ce qui est le cas de quand on marche. Hein, la marche, c'est une chute, enfin une suite, ouais, une succession de déséquilibres. Ouais. Et on est en train de se rattraper en permanence. Et en fait, j'essaie de mettre un peu ces moments-là en lumière dans mon travail, de les faire grossir un peu, ces micro-moments.
On a parlé de la relation avec les machines, les structures, les sculptures. Y a aussi des relations entre interprètes. Parce qu'il n'y a pas que des moments où il y a une seule personne, il n'y a pas que vous, par exemple. Oui. Comment elle se trouve aussi, justement, cette interaction-là, avec donc une structure et plusieurs interprètes?
C'est d'une manière, encore une fois, assez simple. On va écrire une chorégraphie par objet, donc les spectateurs vont suivre. Mmh. Et là... La relation, elle va dépendre de l'objet. La table et chaise, elle a amené une... Enfin, la table et chaise un peu retournée, oui, à l'envers, ça amène un jeu quotidien, en fait, ça ramène à quelque chose qu'on connaît. L'objet en acier, c'est tout de suite un peu plus mystérieux, on ne sait pas ce que c'est. Donc la narration va être tout autre. Mais le travail de narration, il se fait au plateau, lui. Je ne l'écris pas en amont.
D'accord.
Il se fait pendant la répétition, et qu'est-ce que raconte l'objet, surtout ça. Qu'est-ce que l'objet nous amène?
Depuis Moon, que là vous reprenez, donc vous avez créé Mir, qui est un spectacle pour le jeune public. En quelques mots, juste là, on est clairement dans un voyage dans l'espace, pour le coup.
Clairement, ouais. Mir, c'était vraiment le voyage d'une spationaute qui s'est perdue dans l'espace. Et on la découvre.
Merci beaucoup, Bastien Dos. On se quitte donc avec la musique qui accompagne ce spectacle Moon Cabinet de curiosité lunaire, à voir demain et dimanche sur les terrasses du Jardin des Tuileries à 11h et 17h. Il y a deux représentations par jour, deux expositions acrobatiques par jour. Dans le cadre du Festival Paris l'été avec les Étés du Louvre, mi-août, vous serez au Festival La Hollande aux Pays-Bas. Fin août, vous serez dans un autre festival à Londres. Et pour les Journées du Patrimoine, les 20 et 21 septembre, vous serez dans le Nord à Wallers. Merci encore.
Ben merci pour l'invitation.
Et merci à l'équipe des Midi, Laura Dutache-Pérez, à qui nous souhaitons de bonnes vacances, Léa Weiss-Grus, Lisa Dejeude et Nina Gandara, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Grégory Wallon.